André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage dans l'œuvre de Marcel Pagnol avec le troisième volet de sa trilogie marseillaise, César, et avec nos deux amis comédiens, Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour André, bonjour Philippe et bonjour à tous.
Et Philippe Merlan, bonjour Philippe.
Bonjour Françoise, bonjour André, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous pour aborder la fin de cette merveilleuse histoire, Marius, Fanny, César et tout ce petit monde marseillais qui vit autour d'eux. César occupe une place à part car, contrairement à Marius et à Fanny, il fut directement écrit pour le cinéma et non pour le théâtre, où il sera adapté qu'en 1946, 10 ans après la sortie en salle. En outre, il est le seul film de la trilogie à avoir été réalisé par Marcel Pagnol, faisant fi du réalisme et de la chronologie. L'action est censée se dérouler 20 ans après l'épisode précédent, alors que l'époque est la même. César met en scène une nouvelle fois les personnages inoubliables créés par Pagnol, mais s'ouvre sur la mort de Panis, qui tient à ce que Césario, l'enfant qu'il éleva avec son épouse Fanny, apprenne après sa disparition la vérité sur son géniteur, à savoir Marius, le fils de César. D'emblée, l'agonie de Panis illustre l'art de Pagnol, ce mélange de comédie et de drame, le goût des mots et des dialogues, un sens de l'artifice et du jeu qui atteint la vérité des sentiments. La partie de manille des amis de Panis jouant, comme si le défunt était à leur table, traduit aussi le subtil équilibre entre burlesque et émotion. La trilogie dans son ensemble brasse des thèmes aussi anciens que la tragédie antique. L'amour, la filiation, la mort, la vérité, le mensonge, le pardon. Voici un premier extrait où Fanny, Françoise, va apprendre à son fils Césario, Philippe, la vérité sur son père biologique. Ça se passe dans la chambre de Césario.
Tu es obligé de prendre un train ce soir ?
Je ne suis pas absolument obligé, non, mais si je ne partais que demain, ce retard ne causerait pas un scandale, mais à quoi bon ?
Si je te le demandais de rester encore un jour ?
Si je te dis oui, tu ne me le demanderas encore demain et après-demain ?
Si je te le demande, c'est parce que j'ai des choses importantes à te dire, des choses dont nous n'avons jamais parlé.
Oui, oui, des histoires de testament, de succession, d'émancipation. Écoute, maman, je compte sur toi pour arranger ça toute seule. Il faut que je rentre au plus vite parce que j'ai des cours très importants en ce moment. Tu penses, dans un mois, l'examen sorti, j'ai des chances d'être major.
Ça veut dire premier ?
Oui, premier d'une promotion. Tu comprends ? Quand on sort de Polytechnique, l'État offre aux élèves un certain nombre de situations. Ingénieur des ponts et chaussées, des tabacs, des chemins de fer, l'artillerie, enfin, etc. Mais il y en a de meilleures et de plus brillantes que les autres. Et le major choisit le premier. Pour moi, évidemment, ça n'a pas d'importance d'être major, puisque ma situation est toute faite grâce à papa et à toi. Mais ce serait un grand honneur. Ce qui me fait de la peine, c'est de penser que mon pauvre papa ne l'aura pas vu.
Il a été bien fier de toi toute sa vie. Il n'aurait pas pu l'être plus.
Mais lui, il a été un bon père, un père admirable. J'ai parlé quelques fois de lui avec mes camarades de l'école. J'ai montré les lettres qu'il m'écrivait. A dû boucher mon ami, là, celui qui sort le dimanche avec moi. Celui-là, son père ne lui écrivait que pour l'engueuler. Tandis que moi, il y a les pères dévoués, oui, naturellement, mais je ne sais pas s'il y en a un qui ait été aussi bon que le mien.
Et pourtant.
Mais pourtant, pourtant quoi ?
Pourtant.
Mais pourtant quoi ? Qu'est-ce qu'elle me dit, maman ?
Et pourtant, ce n'était pas ton père.
Qu'est-ce que tu dis ?
La vérité, c'était mon mari. Mais ce n'était pas ton père.
Maman, mais voyons, maman, mais c'est absurde, ce serait ignoble, voyons.
C'est la vérité. Je sais que tu en as de la peine et que tu vas peut-être me mépriser, mais c'est la vérité. Tu n'es pas le fils d'Honoré.
Je pense à certaines paroles de mon père, enfin, de ton mari, puisqu'il n'est plus pour moi que ton mari. Un jour, il m'avait dit, ta mère, ce n'est pas une femme comme les autres. Elle est intelligente, elle est dévouée, elle est propre, propre. Voilà le mot. Je ne veux pas en chercher d'autres. Propre, c'est elle.
Je sais qu'il le pensait.
Et puis il m'avait dit, chaque fois que j'ai vu un bateau blanc repeint de neuf, une belle lessive étendue avec ses draps tout éclairés, Chaque fois que j'ai vu une grande prairie toute blanche de marguerites, eh bien, j'ai pensé à ta mère. Voilà ce qu'il disait, papa. Qu'est-ce que je vais penser des autres femmes maintenant que je sais que ma mère peut me mentir ?
Mais je n'ai pas menti. Il le savait.
Ah, tu lui avais tout avoué. Et alors, il t'a pardonné ? Il t'a gardé ?
Il le savait avant de m'épouser.
Il le savait avant ?
Il savait tout, absolument tout. Je ne lui ai jamais menti.
Non, pourtant, tu m'as menti à moi pendant 20 ans.
Je n'ai jamais dit qu'il était ton père.
Tu ne me l'as pas dit, mais tu me l'as laissé croire.
Oui, c'est pour lui faire plaisir à lui. Il avait exigé le silence. Je n'ai rien dit.
Et alors, pendant 20 ans, il m'a élevé, il m'a nourri, il m'a aimé. Il s'est dévoué pour moi et il savait.
Il le savait. Et il n'a vécu que pour toi et moi.
Alors, c'était un saint ?
Presque. En tout cas, il était heureux de se dévouer. Je l'ai vu rire tous les jours pendant 20 ans.
Mais ce secret, vous étiez les seuls à le savoir ?
Non.
Grand-mère le sait ?
Oui.
Et tante ?
Elle le sait aussi.
Et mon parrain César le sait probablement ?
Oui, il le sait.
En somme, on peut dire qu'on a fait une certaine publicité autour de cette histoire. Mais moi, toute ma vie, j'ai vécu dans l'ignorance de la comédie qui se jouait autour de moi. Il a dû y en avoir des conciliabules, des chuchotements, des inquiétudes. Et le pauvre papa. Et il devait avoir un drôle d'air au milieu de cette aventure. Mais quel rôle lui faisait jouer ?
Mon petit, ce rôle, c'est lui qui l'avait choisi en pleine connaissance de cause. Et tous les jours, il m'a remercié de lui avoir donné un fils.
Vous auriez dû me le dire plus tôt. Je l'ai beaucoup aimé, mon vieux papa. Il me semble que je l'aurais aimé davantage, que je l'aurais mieux remercié de sa tendresse et de sa bonté. Tandis que maintenant, papa, mon vieux papa, va, on peut me faire des révélations de toutes sortes. Tu n'étais peut-être pas mon père, mais tu as toujours été mon papa. Et ça le restera toujours. Et l'autre, hein ?
Écoute, Cesario, je t'ai fait un aveu pénible, un aveu qui m'a coûté cher parce que tu vas me mépriser. Et tu me méprises déjà. J'ai fait cet aveu parce que, au lit de mort de ton père, le prêtre l'a exigé. Ils m'ont forcé à te révéler que tu n'es pas le fils honoré. Ils ne m'ont pas obligé à te dire le reste. À quoi bon ?
Oui, oui, à quoi bon ? Il est mort, mon faux papa ?
Peut-être.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, peut-être ? Ça veut dire que tu ne le sais pas ? Remarque bien que moi, ce monsieur ne m'intéresse pas. Mais toi, il t'intéresse peut-être encore ?
Mon petit, ne me parle pas sur ce ton à ta mère.
Je ne veux rien te dire de blessant. Je m'étonne seulement que tu puisses... Que tu aies commencé cet aveu, tu crains d'aller jusqu'au bout.
Je ne veux pas songer à ce passé. Laisse-le dormir.
Est-ce qu'il dort vraiment ? T'as peut-être une bonne raison d'hésiter à me dire son nom. Tu l'as revu peut-être ? Tu le revois peut-être encore, et alors, si je savais qui c'est, je serais peut-être gênant.
Cesario, tu m'as fait du mal.
Pardonne-moi, maman, mais il s'agit peut-être d'un homme que je vois quelquefois. Alors je suis bien forcé de me dire que si j'ai perdu papa deux fois, toi, tu n'es peut-être pas aussi complètement veuve que je le croyais. Il vit encore ?
Oui.
Tu m'as presque menti tout à l'heure. Tu m'as dit peut-être.
Comment veux-tu que je sois absolument sûre ? Je ne l'ai pas revu depuis 15 ans.
Il t'a écrit ?
Jamais.
Je le connais ?
Tu l'as vu. Tu lui as parlé il y a 15 ans.
Après tout, je n'ai aucune envie de savoir qui c'est. Un jeune homme riche, sans doute, qui t'a séduite et qui t'a laissé avec un enfant. Ça doit être un joli monsieur.
Ce n'est pas un jeune homme riche. Et quand il m'a quittée, il ne savait pas que j'allais avoir un enfant. Je ne le savais pas non plus.
T'avoues donc que tu ne l'as pas fréquenté bien longtemps. Alors, comme ça, en passant, quoi. Toi, tu as fait ça, hein ?
Non, mon petit. Je le connaissais depuis toujours. Il m'aimait.
Et toi, tu l'aimais aussi ?
Si je ne l'avais pas aimé, tu ne serais pas là pour me le reprocher.
Alors si vous vous aimiez tant que ça, pourquoi t'as-tu quitté ?
Il avait la folie de la mer. Il voulait naviguer. C'était une maladie.
Comme Marius, le fils de César ?
Comme Marius, le fils de César. C'était lui.
Ainsi, le jeune homme apprend par Fanny, avec une grande surprise, que son géniteur est en fait Marius, le fils de son propre parrain César, qui est donc aussi son grand-père. Voulant savoir qui est son père biologique, Cesario décide de le rencontrer incognito. Il se fait passer pour un journaliste afin de glaner des informations auprès de son entourage à Toulon, où Marius possède un garage automobile. Au cours d'une partie de pêche en tête-à-tête dans les Calanques, il découvre l'homme qu'est son père, dont la grande franchise l'incite à profondément s'attacher à lui. Pourtant, les affabulations de comptoir de Fernand, son associé, sèment à nouveau le doute dans son esprit. Cesario finit par avouer à sa mère qu'il a rencontré Marius. Voici un deuxième extrait. Ça se passe dans sa chambre.
Tu n'as peut-être pas tort de vouloir me faire désinfecter, hein ?
Alors, tu avoues ?
Oui, j'avoue. J'étais à Toulon avec Monsieur Marius Olivier, mon père.
Tu as vu Marius ?
Je l'ai vu, et je lui ai parlé.
Et qu'est-ce qu'il t'a dit ?
Il n'a jamais su qui j'étais. Moi, malgré ce que j'avais entendu dire de lui, par une espèce de curiosité stupide, j'avais envie de le voir. Moi, je l'ai vu. Je n'en suis pas plus fier pour ça, tu sais. Maman, c'est un voyou. Je suis le fils d'un voyou.
Et comment le sais-tu ?
Ben, un individu de sa bande, une crapule sympathique et tatouée jusqu'aux yeux, m'a dit la vérité sur lui. Il m'a proposé de faire avec lui une belle affaire de contrebande ou de drogue, je ne sais plus. Oh, ce ne sont pas des grands criminels, évidemment. Ce sont tout simplement des individus louches. Il paraît que pour installer leur garage, ils ont commencé par vendre leurs femmes à des amis.
Il se porte bien ?
Rassure-toi, il est bien bâti, il paraît très jeune. On ne croirait jamais que c'est mon père.
Il avait 20 ans lorsque tu es né. Il approche de la quarantaine aujourd'hui. Ça n'a rien fait de le voir.
Nous sommes allés à la pêche ensemble. Il m'a préparé la bouillabaisse. Pendant qu'il dormait sur sa poitrine, j'ai vu mon grain de beauté.
Le tien est un peu plus haut.
Tu as des souvenirs précis ?
Ce ne sont que des souvenirs.
C'est-à-dire que tout cela est monstrueux.
Pourquoi ?
Parce qu'il est visible que tu l'as aimé passionnément.
Oui, passionnément.
Et tu l'aimes peut-être encore. J'ai perdu mon père il y a 3 mois. Maintenant, il me semble que j'ai perdu ma mère. Si. Parce que maman m'a dit de lui.
Ce n'est pas vrai. On t'a menti.
Pour quelle raison ?
Je ne sais pas. On t'a menti. Si tu l'avais connu quand il avait ton âge. Il était fort, il était gai, il était beau. Quand nous étions petits, quand nous allions encore au catéchisme, je l'aimais déjà. Il n'était pas comme les autres. Tu sais, les autres garçons, ils étaient grossiers. Et devant les petites filles, ils disaient presque exprès de vilains mots. Il faisait de vilains gestes, et si l'on jouait en cachette, il essayait toujours de nous embrasser. Lui, jamais. Il était bon, il était délicat, comme un homme. Je l'aimais plus que tout au monde. Et puis, quand j'ai été plus grande, pendant que je vendais mes coquillages à l'inventaire, je l'entendais qui faisait son travail dans le bar. De temps en temps, il sortait, et nous bavardions tous les deux. Et quand il venait me parler, je sentais trembler mes genoux. Et puis souvent, l'après-midi, à la terrasse, je m'asseyais et j'allongeais mes jambes sur une autre chaise. Je mettais mon chapeau de paille sur mes yeux. Je faisais semblant de dormir. Lui, il venait tout près de moi. Il croisait mes bras et me regardait. Et moi, à travers tous les petits trous du chapeau, je le voyais avec son tablier bleu, ses bras dorés et sa mèche qui tombait toujours.
Tu l'aimes encore, hein ? Tu l'as toujours aimé ?
Égoïste, va, égoïste ! Il n'y a rien de plus égoïste qu'un enfant. Tu as commencé par prendre mon sang pour faire le tien. Tu as craquelé mon ventre. Tu m'as fait vomir pendant des mois pour que ta petite vie devienne forte. Après, tu as mangé mon lait. Puis, tu m'as réveillé chaque nuit. Et puis, tu m'as tenu en esclavage pour ta première dent, pour ta coqueluche, pour ton certificat d'études, pour ta scarlatine, pour ton baccalauréat. Va, tu m'as toujours pris. Ou plutôt, je t'ai tout donné. Même les enfants que j'aurais pu avoir.
Quels enfants ?
C'est toi qui m'a forcé à épouser Honoré, et puis tu m'as fait perdre mes autres enfants, ceux que mon vieux mari n'a pas pu me donner. Moi, je n'ai vécu que pour toi, que pour que ta vie s'est réduite à t'écouter grandir.
Maman !
Tu me reproches maintenant ce qui s'est passé avant ta naissance, mais avant ton premier cri, je n'étais pas une mère, j'étais une femme comme toutes les autres, et j'en avais le droit. J'ai eu 18 ans, moi aussi. Ne me méprise pas parce que ma vie a commencé par une belle, une merveilleuse histoire d'amour. Une histoire où rien n'a manqué. Pas même les larmes. Pas même le goût du péché.
Le goût du péché ? Et toi, tu dis ces paroles avec une sorte de regret ?
J'ai payé ma faute assez cher pour avoir le droit de l'aimer.
Oui, évidemment. T'es une femme. Je n'y avais jamais pensé. Vois-tu ? Il m'a toujours semblé qu'avant moi, tu n'existais pas. Tu n'étais pas née. C'est peut-être la forme naturelle de l'amour filial. Que t'aies aimé ce Marius, c'est une idée qu'il faut bien que j'accepte, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais il ne faut pas qu'aujourd'hui encore, cet amour t'aveugle sur lui.
En quoi suis-je aveuglé ?
Il ne suffit pas de dire « ce n'est pas vrai » pour supprimer les vérités gênantes. Tu peux en souffrir, mais c'est un fait. Mon véritable père est un homme perdu, voilà tout.
Et s'il était vrai qu'il le soit tombé si bas, tu n'as pas la tentation de l'aider ?
Il n'a rien fait pour moi. Pourquoi ferais-je quelque chose pour lui ? Et puis, que faire ?
Nous avons de l'argent.
Oui, l'argent de papa.
J'en ai gagné ma part.
Je le sais.
Et si tu lui envoyais, sans rien lui dire, une somme d'argent assez importante pour lui permettre de recommencer sa vie.
Très peu de temps avant sa mort, papa m'a chargé de veiller sur toi. Je n'ai pas compris tout de suite. L'idée de te protéger, toi, ma protectrice, c'était une idée qui me paraissait absurde et folle. Aujourd'hui, je comprends.
Et tu comprends quoi?
Ce que tu viens de me dire 20 fois. Que tu es une femme, un être faible, capable de perdre la tête. Et que malgré tes airs de créature forte et raisonnable, tu as une sentimentalité violente et naïve. Une sentimentalité refoulée qui t'expose à commettre les pires bêtises. Et qu'il faut qu'aujourd'hui, dans cette maison, je remplace.
Tu es jaloux simplement.
Peut-être, oui. Je suis jaloux de toi. Mais cette jalousie, je la ferai taire quand le moment sera venu.
Quel moment?
Tu es jeune, tu es jolie. Si un jour plus tard, tu avais le désir de recommencer ta vie, si tu voulais te remarier...
Moi?
Et pourquoi pas? Eh bien, si tu voulais te remarier, je ne dirais rien. Et si un homme te rendait heureuse, je lui donnerais tout de suite ma reconnaissance et mon amitié. Il faudrait qu'il fût digne de toi, digne de moi, digne de papa, comprends-tu?
Je n'ai jamais pensé à me remarier.
Alors pourquoi tu me parles-tu toujours de ton Marius?
Ce n'est pas moi qui en ai parlé la première. Ce n'est pas moi qui suis allée le voir. Toi, tu le hais et tu le méprises, mais tu me prends le bateau d'Honoré et tu t'offres la joie d'aller la pêche avec lui.
Maman, il ne faut jamais plus y penser, il faut l'ignorer. Il est mort.
Pourquoi?
Tendre et faible comme tu l'es, tu serais pour lui une proie facile, maman. Tu ne dois pas le revoir.
Je n'ai jamais essayé.
Ne nourris pas de rêves insensés, ne caresse pas un espoir impossible. Le jour où tu le reverrais, moi, tu ne me reverrais plus.
Où irais-tu?
Loin, loin, loin dans les colonies. C'est moi, une très belle situation dans l'armée et dans l'industrie. Je partirai et je ne reviendrai jamais.
C'est comme cela que tu m'aimes?
Oui, c'est comme cela, oui. Et c'est parce que je t'aime beaucoup que je te parle sur ce ton. Je veux te préserver, maman.
J'ai bien su me défendre seule.
Tu ne saurais peut-être plus. Écoute, je ne veux pas te surveiller. Ce n'est pas mon rôle et je te respecte trop. Mais tu vas me promettre maintenant que tu n'essaieras pas de le voir.
Je n'ai jamais essayé.
Promets que tu n'essaieras pas.
Je te le promets.
Et s'il venait de lui-même?
Va, il ne viendra pas.
S'il te sait veuve et riche, ta fortune pourrait le tenter. Promets que s'il vient de lui-même, tu me préviendras tout de suite et que tu m'aideras à le chasser. Promets.
Je te le promets.
Jure-le-moi.
À quoi bon?
Jure, maman.
C'est un péché de jurer.
Quand il s'agit de choses aussi graves, un serment n'est pas un péché. Jure parce qu'après, si tu manques de force devant lui, la gravité de ton serment t'aidera. Jure, rends-moi le respect que j'avais pour lui.
Je te jure de ne jamais tenter de le revoir. Je te jure que s'il revient, je ne le reconnaîtrai pas.
Merci, maman. Ce serment était d'autant plus nécessaire que je vois ce qu'il t'a coûté.
Pour eux, toi, rien ne m'a coûté. Rien, mon petit. Et puis, ce serment ne change rien.
Mais alors pourquoi tu pleures?
Je ne pleure pas, mon petit.
Profitant d'une visite professionnelle de Marius à Marseille, Cesario crève l'abcès en provoquant une réunion de famille en présence de sa mère Fanny et de son grand-père César. À la suite d'une poignante explication, Cesario comprend que ses parents lui ont sacrifié leur jeunesse et leur amour afin qu'il puisse bénéficier d'une éducation de qualité et être nanti de biens matériels. Le jeune adulte comprend aussi que sa situation était connue et acceptée de toute sa famille et son entourage. Et nous arrivons à la fin, où Fanny et Marius se rencontrent au poste de chasse de l'oncle Émile.
Bonjour Marius.
Bonjour Fanny.
Tu es en voiture?
Oui, avec la voiture d'un client. Il m'a demandé de la lui rôder, alors je m'en sers. La Torpedo en bas, elle est à toi là?
Oui.
C'est la bonne voiture, c'est solide. Le petit sait que tu es ici?
Il est reparti pour Paris. Il est soldat depuis hier.
Soldat ou officier?
Il commence par être soldat pendant 1 an.
Oh, ça ne fera pas de mal, tu sais. À caserne, c'est bon pour les enfants gâtés.
Tu crois que nous l'avons trop gâté?
Il me semble. Quoique tu sais, je le trouve très sympathique, très distingué. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il a 20 ans. Je le croyais beaucoup plus jeune.
Le temps ne t'a pas semblé long?
Ce n'est pas pour ça. Mais d'abord, j'ai fait tous mes efforts pour ne pas penser à lui, puisqu'il n'était pas mien. Et puis, l'année dernière, on m'avait dit qu'il était dans une école à Paris.
À l'école polytechnique.
La plus haute école de France?
Oui. Il y est entré 4e.
4e?
Et il en est sorti 1er.
Mon fils? Enfin, ça fait quelque chose. Enfin, Maître Panis me l'a bien élevé. Je lui pardonne presque de me l'avoir pris.
Il te l'a rendu?
Je n'ai pas connu son enfance. Je ne l'ai pas porté sur le dos. Enfin, il l'a bien élevé, puisqu'il en a fait quelqu'un de mieux que nous. C'est ça que ça veut dire, élever. Ça veut dire monter plus haut que soi, ce qui fait que mon fils est à une hauteur où ce n'est pas moi qui l'ai mis. Je ne sais pas bien te le dire, mais je le sens. En somme, pourquoi tu m'as fait appeler?
Je t'ai demandé de venir ici parce que je voulais te parler seul à seul. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant ton père, ni surtout devant notre fils. L'autre jour, Marius, Tu as été méchant avec pour moi.
Non, Fanny, je n'ai pas été méchant.
Tu m'as fait pleurer deux nuits.
Je le regrette de tout mon cœur. Allez, va, Fanny, je ne veux pas de mal.
Tu n'as pas de haine pour moi, mais au fond, tu m'en veux un peu. Tu crois que j'ai été heureuse, Marius? Ce n'est pas vrai. Marius, je n'ai pas vécu. Vois-tu, Honoré, je ne l'ai jamais aimé. Ce n'était pas pour moi qu'un ami. Malgré sa tendresse et sa bonté par un moment, je l'ai haï. Parce qu'il m'avait prise à toi. Va, tu le sais, je t'ai toujours aimé.
De loin?
Je t'ai attendu chaque jour. J'ai langui de toi. Et toi, pendant ce temps, tu étais avec une autre femme.
Tu aurais voulu que je vive seule comme une bête?
Tu n'as jamais essayé de me revoir, même de loin.
Qu'est-ce que tu en sais?
Si tu étais passé près de moi, je l'aurais senti les yeux fermés.
Il y a 10 ans, un jour, ça m'a pris. Je suis revenu, je t'ai vu. Mais c'est tellement ridicule que je n'ose pas te le raconter.
Pourquoi dis-tu que c'était ridicule?
Je m'ai été, pour ainsi dire, déguisé. Pendant 2 mois, je m'étais laissé pousser la moustache.
Ça t'allait peut-être bien?
Non, j'étais grotesque. Et puis j'avais mis en plus des lunettes noires et un chapeau melon. Je suis venu et je t'ai vu. C'était aux courses, à l'après du parc Borelli, à côté de celui qui loue les bicyclettes. J'étais assis à la terrasse du petit café. La voiture est arrivée, tu conduisais. C'était une petite torpedo noire, toute neuve, qui tournait rond comme une montre. Tu t'es rangé le long du trottoir à 10 mètres de moi. Honoré avait une superbe casquette blanche, hein. Un veston à martingale et la lorgnette bandoulière. Il est descendu le premier, il a couru pour t'ouvrir la portière. Et comme tu descendais, j'ai vu ta jambe jusqu'au genou. J'ai dû devenir pâle comme un mort. T'avais une robe bleue avec des revers blancs et un grand chapeau de paille claire. Tu semblais une jeune fille de la rue Paradis. T'as pris le bras d'Honoré. Il avait bien raison d'être fier et de sourire à tout le monde. Il avait l'air de quelqu'un de bien, de solide. Il faisait jeune, parce qu'il était heureux. Moi, je devais avoir l'air vieux. Alors là, j'ai senti que je t'avais perdu, perdu pour toujours. Je me suis levé et je suis parti avec ma petite moustache et mon joli chapeau melon. Et je n'ai plus voulu te voir.
Et maintenant, Marius, tu ne veux plus me voir?
Je réfléchis longtemps avant de venir. J'avais peur et j'avais raison.
Peur de quoi?
Je t'aime toujours, Fanny. Toujours comme avant. Plus qu'avant. Et ce n'est plus que possible.
Mais puisque je suis libre aujourd'hui...
Oui, mais qu'est-ce que tu me proposes? De t'épouser?
Qui t'en empêche?
Tu le vois, le déshonneur? Alors quoi? J'irai mettre les pantoufles de Panisse. Elles sont peut-être encore chaudes. On lui a fait endosser le petit, et dès qu'il est mort, on saute sur le magasin. On prend les sous et essaie de privation. Ça, Fanny, c'est pas possible. Tu as trop d'argent.
Cet argent, Marius, j'en ai gagné ma part. Si je ne gardais que cette part, est-ce que tu me voudrais?
Non, je ne te voudrais pas. Moi, je te voudrais toute nue. Enfin, je veux dire sans rien, comme tu étais quand je t'ai connu.
Ça, c'est facile, Marius. L'argent, on peut toujours y renoncer.
Oui, c'est facile, oui. L'autre jour, dans la cuisine de mon père, je t'ai regardé 2 ou 3 fois. Il me semblait que ce n'était plus toi. Tu ne parles plus comme avant. Tu n'as plus le même regard. Tu as fréquenté des gens instruits qui savent parler. Moi, je ne suis toujours qu'un ouvrier. Mettons un artisan, si tu veux, bien sûr. Je ne me cure pas les dents avec la pointe du couteau. Mais si j'avais le bonheur de vivre près de toi, peut-être je te dirais des plaisanteries qui ne te feraient pas rire du tout. Peut-être qu'en voulant te plaire, je te choquerais. Je te déplairais.
Toi, Marius, tu me déplairais?
Tu vois bien que je suis gêné devant toi. Je n'ose pas te regarder. Si t'étais ma femme, je me ferais toujours l'effet de contremaître qui couche avec la femme du patron.
Tu me trouves trop vieille, peut-être.
Toi, vieille? Oh que non. Tu as l'air de la sœur de ton fils. Non, c'est pas ça. Je vais te le dire, Fanny. T'es trop belle pour moi. Aujourd'hui, tu te fais coiffer par un artiste. Tu te mets la peinture sur les ongles. C'est très joli, remarque bien. Et ça, même je gagne encore assez pour te le payer. Mais tu dois avoir d'autres habitudes. Les domestiques, le train de vie, le grand couturier. T'as eu de l'argent. L'argent t'a marqué.
Non, Marius, c'est tout le contraire. Il m'a préservé des marques du temps. Écoute, devant toi, je puis tout te dire. Je n'ai pas été une bonne femme pour Honoré. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le rendre heureux, mais souvent, bien souvent, j'ai eu de mauvaises pensées. Souvent, je me suis dit, il a 30 ans de plus que moi, le bon Dieu fait bien les choses comme d'habitude, il doit partir 30 ans avant moi. Et si Marius était encore libre à ce moment-là?
Tu pensais à ça?
Oui. C'est horrible, mais je le pensais. Surtout, ne va pas croire que je souhaitais sa mort. Non, non, je l'ai soignée comme sa fille et je l'ai pleurée sincèrement. Mais cette mort, je savais bien qu'elle viendrait un jour. Et j'avais une grande crainte, c'était de trouver la vieillesse en même temps que ma liberté. Alors, parce que j'avais de l'argent, j'ai pu me défendre. Si tu savais avec quelle patience j'ai suivi les conseils des médecins, la culture physique, les régimes, le coiffeur, le couturier, c'était pour t'attendre, Marius. Et chaque matin, devant mon miroir, je cherchais sur mon visage les marques du temps. Et combien de fois le soir dans ma chambre, je me suis faite belle toute seule pour mon amoureux qui ne venait pas. Mais aujourd'hui, si tu me veux encore, je n'aurai besoin que de ton amour. Marius, je te ferai des lettres, les factures, je ferai mon ménage toute seule, je t'apporterai ton café. Ne refuse pas, Marius. Notre fils est un homme. Il aimera bientôt une autre femme. Et je suis toute seule. Je n'ai plus que toi.
Où vas-tu, Fanny? Il me semble que ce serait malhonnête si j'acceptais un pareil sacrifice. Écoute, je vais réfléchir quelques jours, voir comment nous pouvons faire. Et si j'ai le droit de le faire, pardonne-moi Fanny, j'ai trop envie de t'embrasser. Mais je te téléphonerai demain.
Avec la complicité de César, Césario a œuvré à ce que Marius et Fanny se retrouvent et vivent enfin leur amour, resté intact après 20 années. Tout est bien qui finit bien. En 1936, avec César, Pagnol a décidé de conclure l'histoire de ses héros marseillais. Il est maintenant cinéaste et c'est directement pour l'écran qu'il a écrit ce César, dont il publie cependant le texte. Il démontre avec maestria que pour lui, le théâtre et le cinéma ne sont pas fondamentalement différents. L'important, ce sont l'auteur, ses personnages et les mots qu'il prononce. Rému, Charpin, Freinet, Aurane de Mazis, artificiellement vieillis, retrouvent leur rôle dans ce film mélancolique. Le 20 ans après de Pagnol. Tu es un emmerdeur, César, pas autre chose. Très bon dans le fond et très sensible, mais une fréquentation intolérable. Tu vis tout seul parce que personne ne veut rester avec toi. Tu as fait fuir les garçons, tu as fait fuir les bonnes, tu as fait fuir les clients, tu as même chassé ton fils. Pierre Billard nous dit « Le film garde la qualité de cette saga tribale où se mêlent Sem et surtout s'apostrophe des personnages qui sont à la fois les membres d'un pittoresque folklore régionaliste et des types humains de valeur universelle. À travers d'homériques discussions de bistrot, ils évoquent le rêve de paradis lointain, le fossé des générations, les exigences du devoir moral au-delà des tricheries du quotidien. » César conclut dignement le plus grand feuilleton populaire que le cinéma parlant ait apporté à cette époque. C'est dans l'âge classique du cinéma français chez Flammarion en 1995. Pagnol a adapté son scénario pour le théâtre. La pièce, première adaptation d'un film à la scène, est créée le 14 décembre 1946 au Théâtre des Variétés où avait eu lieu une reprise de Marius et Fanny en 1942 et 1943. Si Aurane de Mazis, Maupy, Milly Matisse et Robert Wattier retrouvent une dernière fois les rôles qu'ils ont rendus célèbres, Alida Rouf est freinée, indisponible, sans remplacer par Marguerite Chabert et Henri Alibert. Et dans le rôle de Césario, eh bien celui-ci revient au jeune Raymond Pellegrin que Pagnol venait de faire tourner dans Naïs. La création est endeuillée par la disparition en septembre de la même année de Rému. Qu'Henri Vibert ne parvient pas à faire oublier. Merci Françoise, merci Philippe. À très bientôt pour d'autres lectures de Marcel Pagnol. Notre émission est maintenant terminée. La citation du jour. Le rire est une chose humaine, une vertu qui n'appartient qu'aux hommes et que Dieu peut-être leur a donnée pour les consoler d'être intelligents. Elle est bien sûr de Marcel Pagnol. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de notre radioaltitudefm.com et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale FNCTA, fncta-milipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'appeler au 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain.
Au revoir et à bientôt. Au revoir.